RTL Original Podcast.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Bulle Immo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Julien Licheron, chercheur à l'Observatoire de l'Habitat. Bonjour.
Bonjour Gaël.
Et Pierre Clément, directeur de Nexvia. Vous allez bien ?
Très bien, merci beaucoup. Bonjour Gaël.
Alors nous nous retrouvons une semaine jour pour jour après la publication des chiffres du premier trimestre 2024. Comme d'habitude, il y a plusieurs tendances à souligner. Julien, je vais tout simplement vous laisser la parole.
Oui, merci Gaël. Effectivement, on a pas mal de tendances intéressantes, mais je pense qu'ils sont surtout dans le prolongement des trimestres précédents, et en particulier de ce qu'on avait déjà observé au quatrième trimestre 2023. Alors les chiffres qui ont été publiés, ils portent sur le premier trimestre 2024. Donc on parle de transactions qui ont été essentiellement réalisées jusqu'en janvier. Donc on est encore une fois pas sur les prix les plus récents ou les plus actuels, mais je crois néanmoins qu'on est sur quelque chose d'assez tangible, qui est au niveau des prix une stabilisation des prix qui est assez claire. On a aussi une stabilisation en termes d'activité et on a aussi une relative stabilité en termes de loyers annoncés. Hein, donc je dirais presque une triple stabilité. Et pour revenir un peu plus dans le détail sur les chiffres, premier point qui est vraiment à noter, c'est au niveau de l'activité, on reste quand même sur des niveaux assez bas, très inférieurs à ceux d'avant la crise immobilière. On a néanmoins un léger redémarrage de l'activité sur le marché spécifique des appartements anciens, où là on a plus 25% par rapport au premier trimestre de l'année 2023.
Il faut noter qu'il était très très bas.
Hein. Mais il était très mauvais. On est malgré tout assez nettement en dessous des niveaux normaux d'un premier trimestre en tout cas comparativement à ce qu'on avait avant la crise immobilière. Sur le marché des maisons anciennes et des terrains à bâtir, on a aussi des chiffres qui sont assez bas. Et sur le marché de la nouvelle construction, on reste là sur une atonie. On n'a quasiment pas de transactions. Pour donner un chiffre, on est à 92 transactions. Pour de la vente en état futur d'achèvement d'appartement sur le seul premier trimestre 2024, ce qui est le plus faible total qu'on ait eu sur un trimestre depuis la création de la publicité foncière. Donc on est vraiment sur des niveaux qui restent très 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 bas. On peut même se demander si on a vraiment un marché sur lequel on peut analyser les tendances pour ce qui est de la vente de nouveaux. Donc voilà, ça reste le point le plus faible du marché. Vraiment, c'est la nouvelle construction qui patine vraiment. Alors si maintenant on regarde les prix, comme je le disais, stabilité. Après 4 trimestres consécutifs d'assez nette baisse, on avait déjà noté un ralentissement dans la baisse au quatrième trimestre 2023, qui se confirme vraiment dans les chiffres du premier trimestre 2024, où là on n'a plus d'augmentation de prix notable ni sur le segment des maisons anciennes ni sur celui des appartements anciens. Évidemment, sur 12 mois, on reste sur une baisse de prix assez nette, mais qui est surtout portée par le milieu de l'année 2023. Et sur le marché des appartements en construction, comme je le disais, c'est compliqué d'analyser les chiffres, parce qu'on est sur un total de ventes tellement faible que finalement, les évolutions des prix sont très difficiles à analyser. C'est très volatile, très compliqué.
On le rappelle, pour une commune, par exemple, vous avez besoin de moins 10 ventes.
Pour les statistiques détaillées par commune, où là, effectivement, quand on regarde les chiffres communaux, on a quasiment que du manquant, puisqu'il y a peu de communes dans lesquelles on a plus de 10 transactions sur une année complète. Donc ça, c'est une difficulté. Mais sur l'indice hédonique qui est créé par le Statec et qui sert à interpréter les chiffres de prix de vente, on n'a pas forcément besoin de 10 ventes par commune. On regarde l'ensemble des chiffres et on calcule en essayant d'ajuster par les différences de qualité les niveaux de prix. Mais même là, c'est compliqué parce qu'on a tellement peu de ventes que quelques ventes un peu plus cher ou un peu moins cher que la moyenne, ça peut assez vite faire dévier l'indicateur. Donc très compliqué d'analyser ce marché-là. Et maintenant, si on regarde, dernier point, les loyers, qui sont un élément important aujourd'hui du marché immobilier, là on a une relative stabilité aussi. Plus 1,5% sur 12 mois pour les loyers, aussi bien pour les loyers annoncés, donc les loyers pour des nouvelles locations, que pour les loyers en cours de bail. C'est quand même deux fois moins que l'inflation. L'inflation sur la même période, c'est 3,2%. Donc les loyers sont aujourd'hui dans une période de stabilisation. C'est probablement en grande partie dû au fait que les locataires n'ont pas des revenus qui peuvent monter jusqu'au ciel. Donc on a des limites assez fortes sur les revenus potentiels et réels des locataires. Voilà, et donc ça contraint un peu les bailleurs à ne pas avoir des pressions ou à ne pas avoir des ambitions qui sont trop démesurées.
Très bien. Bah, je voulais revenir justement sur une tendance en particulier, donc sur le segment des appartements existants. Vous avez parlé d'un léger redémarrage. Est-ce que c'est une tendance qui s'est confirmée ces derniers mois, Pierre ?
Oui, c'est une tendance qui se confirme et se confirme, je pense, durablement. On l'avait déjà évoqué lors de la dernière bulle IMO. J'avais d'ailleurs exprimé que nous, on avait de nos données de transactions d'agence, mais aussi qu'on récupère avec nos partenaires bancaires. On avait vu cette stabilisation arriver, hein, et donc je l'avais noté. Donc je suis content de voir que dans les chiffres officiels, ça se matérialise. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, que cette reprise des volumes, eh bien, du confirmé, et on le voit aussi sur le deuxième trimestre de l'année. Mmh. Et on a aussi une continuité de la stabilisation, voire une légère reprise sur le prix de l'existant. En prix de l'existant, qu'il faut rappeler, qui a fortement baissé depuis 18 mois, hein, puisque une maison se vend aujourd'hui 21% moins cher que le pic de son prix en 2022, et un appartement 16%. Donc cela provient d'ailleurs des chiffres corrigés de l'indice hédonique, et ça correspond aujourd'hui vraiment à la réalité de ce qui se passe sur le marché transactionnel. Donc avec cette forte correction de prix qui s'est faite, bah, les gens ont retrouvé, se retrouvent dans la capacité à nouveau de racheter, grâce aussi bah, aux salaires qui ont augmenté, hein, pendant cette période. Et donc malgré l'augmentation des taux qui se stabilisent aujourd'hui dans un tunnel d'environ 3,70 à 80 à 3,4 à 3,8%, ça refonctionne. Mmh. Et donc bah, on voit bien que on revient sur des niveaux de volume qui reviennent proches de ce qu'on avait les années précédentes. Il y a à peu près normalement 1050 transactions sur le mobilier existant, et ce trimestre-ci on est à 800, donc on est juste à moins, enfin on est à moins 20%, alors que sur toute l'année 2023 on était plutôt à moins 40%. Donc cette tendance est bien confirmée.
Donc l'existant qui change de main, hein, mais ça ne règle pas le problème de la construction. On va y revenir de toute manière un peu plus tard. Vous avez déjà évoqué donc le fait qu'il y a une situation assez particulière sur le neuf. Hein, je voulais quand même citer le rapport auquel vous avez participé. Donc il s'agit très nettement du plus faible nombre de ventes d'appartements en construction relevées sur un trimestre depuis la création du fichier de la publicité foncière en 2007 quand même. Mmh. Quel commentaire vous auriez à ce sujet ? Alors, on va aller un petit peu dans le détail de ce qui a été avancé, hein, mais comment ça se fait ? C'est-à-dire que les prix ont baissé plus ou moins sur tout, sauf sur le neuf, alors baisse très très légère.
Oui, c'est surtout ce qui explique le fait que le marché ne repart pas. C'est la comparaison du niveau de prix aujourd'hui du neuf avec l'ancien. Comme le disait Pierre, sur l'existant, la baisse des prix a atteint moins 16% pour les appartements existants, ce qui est quand même considérable. Et dans le même temps, les appartements neufs, la vente en état futur d'achèvement n'a pas vu ces niveaux de prix baisser d'autant. Donc forcément, aujourd'hui, l'acheteur qui compare un prix d'un appartement existant et d'un appartement en construction dans la même commune, il va voir ce différentiel de prix quand même assez considérable. Il va aussi tenir compte du fait qu'il y a plus d'incertitudes avec le neuf sur la date de finition, aussi parfois sur la capacité du promoteur à livrer dans les délais. Donc c'est assez évidemment complexe aujourd'hui. Et puis c'est un marché qui peine.
Et puis le fait d'avoir à payer pendant 2 ans les intérêts oui, sur un bien qui n'est pas encore achevé, et comme vous dites, les retards.
Bon, ça, c'était une problématique qui se posait avant aussi et qui, malgré tout, n'empêchait pas la vente de neuf de se faire. Après, le neuf a aussi d'autres intérêts, hein, d'autres atouts fiscaux, mais surtout aussi la capacité à moduler ou à changer un peu le contenu des pièces. Donc, il y a aussi un intérêt à acheter du neuf qui, à mon avis, n'est pas structurellement remis en cause. Hein. Mais c'est vrai que la conjoncture fait que, pour différentes raisons, c'est très compliqué aujourd'hui de se projeter sur un achat de vente en état futur d'achèvement. Mmh.
Alors, vous avez évoqué certains des facteurs, hein. On a parlé de la hausse des taux d'intérêt, la baisse de la capacité d'achat, mais dans l'absolu, c'est surtout les prix qui posent problème. Dans la publication de l'Observatoire, d'ailleurs, on suggère que certains promoteurs auraient fait le choix d'attendre encore. Qu'est-ce qu'ils attendent exactement ?
Ben, je pense que les promoteurs ont compris que leur position pouvait aussi était regardée et que les promoteurs ont d'autres implications que juste eux en réalité, hein. Le promoteur, pour leur activité, ils doivent se financer pour beaucoup de promoteurs luxembourgeois, ils se financent aussi auprès des banques luxembourgeoises, donc les banques sont aussi en réalité mouillées, hein, dans la promotion. Et donc, je crois que beaucoup d'entre eux se sont dit, de toute façon, on représente aussi un potentiel risque pour les banques, et ont attendu de voir ce que le gouvernement allait faire. Et il faut être honnête, le gouvernement fait beaucoup. Et je crois que quand on regarde sur le plan qu'ils ont mis pour aider les promoteurs, ça veut dire que le gouvernement veut en tout cas leur permettre de continuer à vivre. Mmh. Je pense qu'il y a trois éléments. On regarde en premier lieu le programme de rachat de projets par l'État ou par la ville de Luxembourg. En deuxième lieu, il y a eu l'annonce d'un SPV créé par les banques, par les plus grandes banques de la place, pour permettre de financer des nouvelles, d'avancer sur les projets en fait qu'ils ont dans leur carton. Et maintenant aussi avec le discours à la nation de notre Premier ministre, une annonce comme quoi les bailleurs sociaux pourraient même louer en fait des biens immobiliers qui seraient produits par des promoteurs pendant une période de 20 ans avec certes une certaine décote, mais ça vous donne beaucoup d'assurance sur la qualité du revenu que vous allez toucher. Donc je pense qu'ils attendaient de voir quelles étaient les solutions qui étaient mises en place. Et
et la baisse des taux d'intérêt.
Et la baisse des taux des intérêts. Mais baisse des taux qui ne va pas se matérialiser aussi vite que tout le monde avait espéré en 2023. Et aujourd'hui, il est clair que ça va prendre un peu de temps. Et en tout cas, les taux fixes ne vont pas baisser beaucoup, puisque c'est déjà incorporé dans les taux fixes la baisse des taux variables des prochains 18 mois, en gros. Donc il ne faut pas penser que le taux fixe va beaucoup évoluer. Mais néanmoins, je pense que entre les mesures fiscales plus ces plans d'achat, ils veulent voir un peu sur leur stock et sur leur projet dans leur carton, quel va être l'impact. Et là, par contre, s'ils ont besoin, au-delà de ça, de vendre au client naturel qui est un propriétaire occupant ou un petit investisseur, ils vont devoir revoir nettement leur prix. Et je pense que cela n'a pas été fait, puisque quand on regarde l'évolution des prix sur les neufs, ils ont quand même baissé dans les transactions qu'on a, c'est moins 10%. Mais en fait, comme dit Julien, ça ne représente pas la réalité du marché. Parce qu'en fait, 92 transactions sur un trimestre, c'est probablement les transactions qui ont été faites avec des promoteurs qui ont vraiment réussi avec des négos, où il y a eu des baisses de prix. Donc ça ne représente même pas les prix affichés en réalité. Donc je pense que si mouvement il y a sur les prix, ils auront lieu, à mon avis, sur le quatrième trimestre, en réalité, et ça sera assez rapide, parce qu'ils vont aussi avoir le coup près aides. Qui sont valables que au 31-12. Donc là, il va falloir quand même se bouger. Voilà.
Oui, après... Peut-être qu'ils attendaient un peu de certitude pour se projeter sur... ce qui allait se passer. Et là, je pense que maintenant, ils ont des certitudes. On sait que la trajectoire des taux d'intérêt ne va pas être beaucoup altérée jusqu'à la fin de l'année. Ils connaissent maintenant la position du gouvernement et sa capacité à agir sur ce marché. Tout est clair. Donc maintenant, c'est clairement aux promoteurs de se positionner sur un marché qui est beaucoup moins difficile à décrypter que c'était le cas il y a un an.
Donc l'économiste de la Fondation IDEA, Michel-Edouard Ruben, que vous connaissez, a récemment publié un état des lieux de l'économie immobilière et de la politique du logement. Dans ce document, il évoque l'attentisme de certains acteurs du marché, mais surtout les dégâts que cela implique. Je cite, « Cet attentisme porte en son sein un risque aigu de pénurie future pour cause de sous-investissement, de non-alimentation du stock et de perte de capacité de production de logements. » C'est un point de vue que vous partagez ou pas ?
Oui, c'est une inquiétude qu'on a depuis l'origine de cette crise. Je pense qu'ici, on en parle depuis le début, au moment où on parlait encore que de crise immobilière, donc de la conjoncture. Depuis le début, on dit qu'on a un problème particulier, c'est le risque que dans 2 ou 3 ans, quand l'activité va repartir, le marché du neuf soit complètement atone et qu'il n'y ait pas de projet de construction qui sorte de terre. Donc ça, c'est quelque chose qu'on dit depuis le début, hein. Cette position-là, elle est claire. C'est une inquiétude très forte. Maintenant, je pense que ce qui a été annoncé par le gouvernement change un peu la donne, parce que le plan de simplification administrative, c'est aussi une manière de vraiment montrer aux promoteurs que l'on a un objectif, c'est augmenter l'offre de logement à moyen, long terme, mais même à court terme en réalité. Et donc je pense que là, ça oblige les promoteurs maintenant à aller dans le sens de plus de logements. Parce qu'on leur donne les moyens, comme ils l'avaient demandé, de produire plus avec des solutions techniques et des solutions pragmatiques. Donc maintenant, je pense qu'ils sont obligés de montrer qu'ils peuvent faire mieux et plus.
Tout ça quand même en mettant pas mal de restrictions environnementales de côté. J'ai regardé le plan un petit peu en détail, et n'oublions pas aussi que sur pas mal des volets annoncés par le ministre du Logement, il y a des dépôts qui sont prévus fin 2025. Hein. Mmh. Donc le changement, c'est pas pour demain. Donc le souci qu'on connaît aujourd'hui, il va pas se régler...
C'est pour ça qu'il faut différencier ce dont Pierre a parlé, qui est les annonces conjoncturelles, mm-hmm. qui visent à éviter la tonie complète de ce marché. On a laissé, ou en tout cas on a permis aux promoteurs de passer le cap et de proposer, on leur a proposé des solutions de court terme. Mais je pense que c'était important aussi d'avoir des annonces qui visent plutôt le moyen-long terme, pour donner une visibilité aussi pour les promoteurs. À la limite, je dirais, les délais de dépôt des projets sont tels quels sont, mais maintenant la trajectoire est annoncée, elle est claire. On veut donner aux promoteurs les moyens de mettre sur le marché plus de logements, parce qu'on a un vrai besoin.
C'est pas surtout un appel de pied aux investisseurs, c'est-à-dire que là, c'est bon, le Luxembourg montre un peu son intention de permettre aux gens d'investir un maximum sur le logement.
Ça, j'y crois pas trop en réalité, hein, parce que l'appel à l'investisseur, la meilleure chose pour un investisseur, c'est quand il y a, je dirais, pratiquement pas de logement de construit, hein. Le stock baisse, voilà, et les prix augmentent. Oui. Donc je vais vous dire, nous, chez nous, Nexia, on aide aussi des investisseurs. Anciennement, ils investissaient de manière prédominante ou quasi exclusive dans le neuf, et aujourd'hui ceux qui restent investissent plutôt dans des biens existants très récents disponibles, et en pariant sur le fait que pendant les prochaines années il va y avoir relativement peu de construction, et que donc la rareté du bien va faire que mécaniquement les prix vont continuer à augmenter. Et c'est honnêtement un raisonnement qui est logique. Tout à fait logique. Mmh. Donc c'est ça qui est un peu triste. La note de Michel Edouard est excellente comme d'habitude, et assez directe, mais néanmoins il fait une estimation, c'est qu'on aurait un déficit de logements de 32 000 logements en fin 2022. Je pense sincèrement, de toute façon, 2023-2024, vu la production qu'on a, vous pouvez rajouter 10 000 logements non construits. Mmh. C'est clair. La question maintenant, c'est 2025. Donc, bon, moi, je vois très bien, malgré le prix de l'immobilier, les propriétaires occupants aussi achètent. Ils se rendent bien compte que si vous voulez habiter à Luxembourg, ok, c'est un luxe, mais c'est un luxe qui restera un luxe. Et donc, ils sont prêts à faire des concessions pour acheter. Et je crois vraiment que la baisse de prix est finie dans l'existant. Vu ce qu'on voit. Et quand je compare aussi, je lis un article très intéressant de The Economist il y a une semaine, qui compare partout dans le monde les marchés, et les marchés, en moyenne, partout dans le monde, se reprennent. malgré la hausse des taux d'intérêt extrêmement forts. Mais comme dans pratiquement tous les pays du monde, on a le problème du déficit de logement est un problème mondial, qui est aussi très important au Luxembourg, malgré tout ce qu'on a construit au Luxembourg, hein, parce qu'on construit, comme le dit Michel-Edouard, d'ailleurs, on construit quand même beaucoup en comparaison, mais notre population a explosé ici. Elle a explosé. Donc, donc pour l'investisseur, c'est même, honnêtement, de dire il va y avoir tellement de logements qui vont être construits, c'est plutôt mauvais. Par contre, c'est plutôt bon pour la personne, le citoyen à qui on pourrait proposer un logement trop cher.
J'évoquais plutôt le fait qu'on annonce un petit peu un environnement très favorable à l'investissement dans le logement. C'est ça que je voulais dire.
Mais l'environnement a toujours été favorable à la fiscalité. Mais je dirais, le grand changement de paradigme, c'est que pendant longtemps, on s'est dit, on va faire une aide indirecte pour favoriser la production de logements. On va inciter à l'investissement locatif et c'est les investisseurs qui vont permettre la construction future. Aujourd'hui, on change de paradigme. On dit qu'on va directement mettre en place un cadre incitatif pour construire du logement. Moi, je pense que c'est quand même assez différent, mais ça oblige les promoteurs.
Bah avec des vieux mécanismes.
Avec des mécanismes qui sont anciens, mais avec des mécanismes qui étaient réclamés.
L'amortissement accéléré.
Oui, ça c'est vrai. Mais moi je parle plutôt des mesures en faveur de l'allègement des difficultés
à construire.
Mmh. Je pense que c'était quelque chose qui était réclamé par les promoteurs de longue date. C'est un signal qu'il aura envoyé, qu'on veut bien les aider à mettre sur le marché plus de logements, mais ça les engage. Clairement, ils seront aussi jugés de leur capacité à livrer plus de logements dans les prochaines années. Comme le disait Pierre, on parle de 2025-2026, pas avant, parce que c'est déjà trop tard pour mettre en construction des logements qui seront là avant 2025. Mais oui, ou même 2026 en l'occurrence. Maintenant, je pense que c'est une solution qui était réclamée, qui est là, et qui doit être mise en œuvre. On est sur un fil, parce qu'on a vu, pendant la crise quand même, qu'au niveau de prix qui était demandé fin 2022, avec les taux d'intérêt qu'on a aujourd'hui, ça ne marche pas. C'était trop cher, la capacité d'achat n'était plus là, et moi je ne pense pas que c'était conjoncturel, que c'était une difficulté qui théoriquement ne pourra pas se reproduire. Je pense que si les prix augmentent à nouveau de 20% dans le contexte de taux d'intérêt d'aujourd'hui, ça ne fonctionnera pas. On n'aura pas une demande aussi forte, on aura un vrai problème là de capacité d'achat pour un nombre très important de ménages. Et ce qu'on voudrait pas, c'est qu'on devienne un pays dans lequel le logement est si cher qu'il est réservé vraiment aux plus privilégiés, mais plus du tout aux classes moyennes. Et ça, on est sur le fil. Clairement, je pense qu'aujourd'hui, la solution, elle est claire. Le signal est envoyé, il faut plus de logements, assez vite, pour qu'on puisse changer un peu de discussion aussi, parce que ça fait des années qu'on discute des mêmes sujets et qu'on revient sur la table avec les mêmes solutions. Aujourd'hui, elles sont là, elles sont dans les mains des promoteurs et ils doivent vraiment aller plus vite et faire plus.
Alors, vous l'avez rappelé, hein, les chiffres qui ont été publiés la semaine dernière se basent sur des compromis de vente qui ont été signés en majorité avant la fin janvier 2024. Donc, les choses ont évolué, vous en avez parlé, Pierre. Quelles sont les observations que vous pouvez partager avec nous? Parce que vous travaillez surtout dans l'existant, mais j'imagine que vous avez aussi des échos du neuf. C'est toujours le stalemate, ça ne bouge pas.
C'est toujours relativement calme. J'entends que certains promoteurs ont relancé un peu sur la vente de maisons hors ville, qui s'adresse plutôt à une population très, je dirais, locale, plus luxembourgeoise. Et donc là, il y a un peu de reprise. Mais sur les grands projets d'immeubles localisés en ville, c'est toujours compliqué. Les mesures fiscales, certes, qui sont très intéressantes, les mesures fiscales au Luxembourg sont très intéressantes pour les investisseurs et pour les propriétaires occupants aussi. Tout le monde est très aidé pour l'acquisition d'un bien immobilier au Luxembourg. Mais néanmoins, les mesures fiscales supplémentaires qui sont octroyées aux investisseurs jusqu'à l'année 2024 ne permettent toujours pas de rendre le neuf très intéressant au regard de l'existant récent qui est lui décoté de manière plus importante. C'est dommage. Et on parle de probablement quelques pourcents. Mais les gens, les investisseurs font leurs calculs de manière très établie. Et donc, les investisseurs préfèrent regarder de l'existant récent. Et surtout aussi, ils ont peur de s'engager avec les promoteurs, avec tout ce qu'on entend depuis évidemment 18 mois. S'engager sur un projet qui va durer en général 2 ans et demi, il faut s'assurer qu'on travaille avec un promoteur très
solide.
Très solide. Mmh. Donc les grands gagnants en fait, dans la promotion seront ceux qui, à mon avis, baisseront de quelques pourcents ou ont quelques projets qui sont à des prix corrects et qui ont un nom qui est synonyme de solidité. Et y en a certains, et ceux-là seront probablement les gagnants. Et je suis sûr que parmi ceux-là, ils ont bien aussi compris la simplification administrative qui était en cours. Certains sont des grands bâtisseurs, c'est leur volonté de l'être. Mais je crois que le paradigme a changé, ils sont en train de le comprendre, que les prix ne peuvent pas prendre 10% par an, c'est fini. Y a un plafond. Jouer dans ce plafond. Et donc, on achètera du terrain en conséquence, avec des prix qui seront mesurés, et tout ça va se renormaliser. La seule problématique, c'est que ça prend 2-3 ans, généralement, pour que ça se normalise. Donc, l'État était en train d'essayer de faire tampon, et bravo, parce qu'en effet, on a besoin de cette capacité productrice de logement pour le Luxembourg. De toute façon, les promoteurs sont obligés de suivre par après, de s'adapter. Sinon, leur activité est morte. Mmh.
Et ça serait une catastrophe pour le pays. Pas simplement pour eux, parce que quand ils disent qu'ils sont une composante fondamentale du PIB et même de l'activité dans ce pays, ils ont tout à fait raison. De ce point de vue, c'est pour ça qu'on est aussi attentif à la façon dont ils vont réagir à ces annonces de simplification administrative. C'est parce qu'ils ont un rôle important à jouer, ces grands bâtisseurs. Moi, j'ai toujours pensé que les promoteurs avaient un rôle majeur et que on a absolument besoin de leur capacité de production. Peut-être que les marges vont se réduire un peu, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on n'est plus dans un contexte où les prix peuvent augmenter jusqu'au ciel, et on a bien compris qu'il existait une limite sur les revenus, et que si on ne veut pas faire du Luxembourg un petit ou un grand Monaco, en l'occurrence, il va falloir à un moment que l'activité productive augmente. Maintenant, si les marges baissent, ils pourront se rattraper sur les volumes. Parce que là, clairement, on peut imaginer un Luxembourg dans lequel on n'aurait plus 3000 logements construits par an, mais 4500, et ça ne serait pas du tout aberrant, en fait. C'est tout à fait à la fois envisageable, moi je pense, contrairement à ce qu'on a essayé de nous faire croire pendant pas mal d'années, je pense que 4500 logements par an, voire 5000, c'est tout à fait possible, techniquement. C'est impossible d'imaginer qu'un pays où les prix sont tels qu'ils sont au Luxembourg ne peut pas avoir une capacité productive de 4500 à 5000 logements par an. Ça, j'y crois pas. Et donc c'est les leviers qui étaient manquants ou qui remettaient en cause, par exemple, des problèmes de procédure administrative, ils sont en partie de se réduire, ces problèmes-là. Donc il faut aujourd'hui, simplement, que l'activité et que la production suivent.
Et les techniques de construction évoluent aussi beaucoup. Je pense qu'une simplification aussi autour de la construction est envisageable. Vous avez aujourd'hui des promoteurs qui construisent avec des méthodes bien plus efficaces que préalablement. Je pense que l'innovation est toujours bon dans ce domaine. On a un souci de coût de construction aussi, faut être très clair. Luxembourg a toujours construit de manière qualitative. Et ça, c'est vrai, sans trop regarder ce qu'ils utilisaient, puisque tout se vendait assez bien aussi. C'est aujourd'hui le moment aussi de se dire, OK, qu'est-ce qu'on veut construire exactement? Et puis, il y a aussi des marchés différents dans l'immobilier. Une qualité de construction super haute sur chaque immeuble, à mon avis, ça aussi, c'est limite. Est-ce qu'on veut loger? Ou est-ce qu'on veut loger à chaque fois de manière luxueuse?
Et ça ne veut pas forcément dire une très forte densification. On n'est pas en train de parler de construire des tours. Ce n'est pas du tout ça, en réalité.
Vous savez, de toute manière, qu'à partir du moment où vous parlez d'une grande densité, la majorité des communes au Luxembourg, ils freinent des quatre sabots. Et ça, vous le savez, au Luxembourg, c'est un grand frein.
Oui, c'est un frein, mais qui peut se comprendre. Moi, je peux comprendre que dans des communes massivement ou essentiellement rurales, ce soit compliqué d'accepter une densité élevée. C'est absolument pas un problème. Mais il y a des zones dans ce pays qui peuvent être plus denses que d'autres, et ça, c'est pas un souci. De la densité, c'est déjà observé. À Belleval, on a déjà une certaine densité, y compris verticale. Et au Kirchberg, on a aussi de la densité depuis très longtemps. Donc la densité, c'est un mot qui fait peur, mais je pense qu'il n'y a pas de raison La densité, elle peut aussi être plus forte horizontalement. Hein. Mmh. On n'est pas obligé de construire des tours, mais simplement rationaliser un peu la production de logements par rapport à l'espace occupé. Ça paraît naturel et c'est envisageable ça, dans toutes les communes. La densité verticale, elle n'est pas envisageable partout et ça, c'est pas un souci.
Alors, je vais revenir un petit peu sur les mesures gouvernementales. Donc, il y a eu l'entrée en vigueur du paquet logement parce que, comme on l'avait déjà évoqué, il fallait qu'il entre en vigueur pour que certaines personnes y croient vraiment. Les nombreuses mesures à venir dans le cadre du plan de simplification administrative, est-ce qu'à vos yeux, on peut s'attendre à un nouvel élan sur le marché de l'immobilier dans les prochains mois ?
Clairement, il y a un signal qui est envoyé et qui est très important. C'est qu'effectivement, il y a une partie des réclamations de longue date des promoteurs qui sont aujourd'hui en voie d'être satisfaites. Donc ça, je pense que c'est très important. Dans le détail des mesures, on ne va peut-être pas rentrer, mais en tout cas, ce qui est important, c'est le signal et c'est la façon dont les promoteurs, maintenant, sont en capacité de voir arriver un cadre qui leur soit favorable.
Et si nouvel élan sur le marché de l'immobilier il y a, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que ça pourrait signifier pour les prix? Alors, on a déjà évoqué le fait que ça ne peut plus remonter à 10% par an, mais logiquement, vous avez parlé de la rareté des biens, etc. On peut s'attendre à une hausse bientôt des prix
de ce qu'on voit
ou du moins sur l'existant.
Alors, moi, je vais parler de l'existant. L'existant, il y a un stock disponible en vente qui est 2,5 fois supérieur à ce qu'on avait avant 2022. Donc, penser que les prix peuvent augmenter de manière significative, plus de 10% par an, par exemple, c'est impossible. Mmh. Il faut être très clair. Donc aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est que je pense qu'on va avoir une stabilisation des prix ou une légère hausse des prix immobiliers de l'existant, après avoir baissé d'environ 20%. Mais qui sera limité du fait qu'il y a un stock de logements en vente qui est là, qui est disponible. Par contre, vous allez avoir, des différentiels de prix très importants qui vont continuer à s'opérer, qui est le cas aujourd'hui, hein, beaucoup plus qu'avant, entre un appartement récent, bien localisé, dans une rue calme, et un appartement très ancien, avec un CPE mauvais et dans une rue bruyante. Donc les écarts de prix sont de nature à s'écarter encore. Mais sinon, je pense que les prix sont à un certain niveau. Il y a une certaine instabilité qui est en fait attendue au niveau des taux immobiliers. Hein. Donc en fait, tout est en train de se remettre à un niveau normal, et je crois que on sait qu'il y a toujours un lag au niveau des prix, hein. Les taux sont adaptés en quelques mois, les prix sont adaptés de l'immobilier en 18 mois, et là on commence à reprendre du volume sur l'existant, donc ça montre que on va reprendre une activité plus normale.
La correction a quand même été importante sur l'ancien, et comme le disait Pierre, c'est quelque chose qui aurait été difficile, en tout cas qu'on avait peut-être du mal à voir arriver aussi vite, 18 mois, bon, c'est pas très rapide, mais quand même, pour une baisse de prix de l'ordre de 20% sur les maisons et peut-être 16% pour les appartements. Donc on a quand même quelque chose de fort qui était pas nécessairement attendu au moment du déclenchement de cette crise. Imaginez que les prix augmentent dans des proportions similaires à l'inflation, ça c'est tout à fait... ça me paraît pas délirant pour les prochaines années. Et l'inflation aujourd'hui c'est 3,2%, c'est pas non plus rien. Donc voilà, ça c'est clairement l'idée. Et le volume doit suivre, et le volume va suivre sur l'ancien, parce que vraiment il y a une demande qui est là. Au niveau de prix actuel, elle existe. Et comme le disait Pierre, on a un stock relativement important. Donc voilà, je pense qu'on a un moment là intéressant où on aura du volume et des prix qui vont progressivement se stabiliser. Ça peut durer un petit moment, et c'est, j'espère, à souhaiter, jusqu'à ce qu'on ait ce boom. Sur la construction qu'on espère voir venir suffisamment vite pour qu'on ait un marché qui soit plus efficace.
D'accord, écoutez, nous sommes arrivés au terme de l'émission. Je vous remercie tous les deux d'avoir pris le temps de venir en studio. Nos auditeurs, on va se retrouver au mois d'août après une pause bien méritée. Merci.
Merci.